Progueurs, progueuses, ici vos gars du prog! Bonjour, progueurs et progueuses, bienvenue au 35e épisode des gars du prog qui se retrouve en pleine chaleur de l'été. Moi, je meurs de chaud en ce moment. J'espère qu'il est dans une meilleure position que moi. Mon ami Carl, comment ça va aujourd'hui?
Très bien. En fait, moi, j'étais à l'air climatisé pour là, mais j'étais en concert aujourd'hui à Sherbrooke. C'était super cool. Il faisait très chaud, mais c'était vraiment plaisant. C'était tellement une expérience différente d'aller voir et de faire des concerts dehors quand il fait chaud et au beau temps. Il y a comme une synergie, puis un côté de fête qu'il n'y a pas d'habitude, je trouve.
J'ai pas d'expérience là-dedans, mais je peux comprendre l'esprit festif qu'il y a autour de... C'était ça le compte d'un festival ou bien...
Non, c'était pour des concerts comme midi un peu que les villes organisent. Moi, personnellement, j'adore ça quand ils font ça. Puis j'ai été à l'Apocatière l'autre jour, puis une madame organisatrice de spectacle m'expliquait genre que un des projets cet été où ils ont eu des subventions, c'est comme... Il y a 5-6 groupes qui se promènent dans 12 municipalités. Chacun y va une fois. Puis, tu sais, dans les municipalités du Kouamouraska, des fois, peut-être plus reculées. Fait que, pour amener comme la culture vers ces gens-là, je trouve ça tellement primordial, ces affaires-là. Mm-hmm. C'est peut-être quelque chose, je trouve, des fois, que j'aimerais qu'il y ait plus, en général, dans comme beaucoup plus de culture. Même à l'école, c'est normal. Moi-même, j'en joue, mais je trouve que c'est, en tout cas... C'est un idéal que
ouais, on est biaisé étant des gros fans de culture, mais
exact.
Bien culturel et tout. Mais ouais, c'est sûr que c'est le fun de voir justement des villes ou des communautés qui sont prêts à mettre justement l'argent pour offrir à leurs citoyens de goûter à la scène culturelle québécoise, tu sais, comme à travers la province. Et non pas juste les artistes locaux. Puis tu sais, c'est sûr que les plus petites municipalités peuvent pas nécessairement recevoir les Rolling Stones, mais c'est peut-être pas non plus ça qu'ils veulent, puis c'est cool, t'sais, hein, d'encourager comme ça. Là. Non seulement d'encourager, mais c'est pas juste, c'est pas de la pitié, là, c'est vraiment apporter de la vie dans la ville, là, ça apporte beaucoup de vie, des spectacles, surtout en plein air comme ça, c'est sur l'heure du midi, c'est cool, tu sors de travailler, puis là, wow, un spectacle,
tout à fait, puis
c'est cool.
Je suis convaincu que ça amène une sensibilité aux gens, puis aussi un échappatoire, c'est un peu des fois la beauté de l'art, de s'évader puis de vivre quelque chose, surtout la musique, là, c'est comme pas tangible, une expérience un peu extrasensorielle, si on peut dire ça.
Wow.
Mais là, je suis rendu dans la poésie. Mais bref, en tout cas, c'est juste, ça permet des fois peut-être de sortir le méchant puis de vivre un moment, de sortir un peu de sa routine aussi.
En parlant de voyager, qu'est-ce que tu penses de faire un voyage vers the land of pink and gray and pink?
Ben oui, ben en fait, c'est un épisode spécial Canterbury aujourd'hui.
Ouais.
Moi, c'est drôle, c'est j'en ai souvent entendu parler de ce style-là. Ben, on peut dire ce style, mais on va dire cette mouvance de rock progressif. J'ai trouvé ça, premièrement, parce que notre top 5 aussi va avoir un lien avec ça, juste avant qu'on embarque dans Land of Pink and Grey. Of Grey and Pink, on ne m'en souviens jamais, mais comment tu as trouvé ça, comment tu trouverais ça de définir ce style-là, t'es le style Canterbury, t'sais?
Comment je définirais ça? Eh hey boy! Définitivement plus dans l'expérimental. Définitivement plus influencé par le jazz.
Je pense que oui.
Je pense qu'il y a beaucoup d'improvisation aussi.
Je
pense qu'il y a beaucoup de place à l'improvisation. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas, mais c'est vraiment les éléments. Tu sais, la philosophie prog dans le sens de les chansons plus longues, peut-être des albums concept, les plaisirs à peut-être jouer avec les rythmiques, ce genre de choses-là. Mais je trouve qu'il y a moins le côté rock qu'on trouve dans le rock progressif. C'est pas du jazz non plus, t'sais. Moi, je constate pas que c'est vraiment du fusion. On n'est pas pantou dans ces sons-là, je trouve. C'est vraiment un sous-genre assez unique dans son son. Les sons, c'est quoi? C'est de... je pense que les sons, puis ça, c'est une affaire que j'aime de ce genre-là aussi, c'est que c'est un genre un peu transfuge. Il y a beaucoup de musiciens qui ont joué dans beaucoup de groupes ensemble, puis... beaucoup de copinage comme ça, là, de bah, le bassiste a joué là, le bassiste a joué là et là, le clavieriste il a joué là. Puis là, t'écoutes un autre album, hey, ça sonne vraiment comme là, tu vois, c'est parce que c'est le même clavieriste. Fait qu'il y a des sons comme ça qui sont automatiquement associés là, au Canterbury scene, dont le son de clavier qui est beaucoup sur The Land of Green Pink. Là, ce son-là, c'est pour moi, c'est un son assez iconique du Canterbury scene, ou la, le chant de Robert Wyatt, qui est incontournable dans le genre aussi. Des petits trucs comme ça qui définissent ce genre-là. Donc, je pense que c'est à la fois le côté transfuge, le son, puis peut-être les influences aussi. Toi, comment t'aurais défini ça?
Ouais, t'as bien dit ça, je pense, en effet, l'influence du jazz, le côté... T'sais, je pense que, rendu là, il y a plein de mini-sous-genres du Canterbury. T'sais, moi, je trouve ça quand même dur à définir. T'sais, c'est pas comme... Je pense que c'est surtout le fait que ce soit plusieurs musiciens qui jouent ensemble, comme tu dis, qui est comme une sorte de communauté artistique qui peut créer le son. T'sais, je pense surtout le Robert Wyatt puis le groupe Soft Machine ont été un peu le moteur de cette ville-là, on va dire le côté culturel de Canterbury, on va dire ça de même. Mais non, vraiment. J'aimerais ça d'ailleurs m'informer pour voir justement comment... Il doit sûrement exister des livres, mais pour comprendre la synergie qu'il y avait entre les gens. T'es en jasant un peu avec des fois Mario Légaré dans nos entrevues ou Paul Picard, on comprenait que les bandes de prog au Québec, surtout à Montréal, partageaient même des fois des locales de pratique, est-ce que les gens s'influençaient comme ça? En tout cas, il y a de quoi d'intéressant à aller chercher.
Tu sais, Canterbury, j'ai pas fait de recherche sur la ville en elle-même, mais si c'est une ville de taille moyenne ou petite, même, c'était des gars qui se connaissaient avant ça, tu sais, c'était peut-être des amis ou des connaissances, ou clairement, il y avait un réseau important.
Tout à fait. En tout cas, commençons avec, moi, c'est un avec Land of Pink, Green, Land of...
Grey and Pink, c'est gris en
premier. Merci, t'as tout à fait raison. Of Grey and Pink du groupe Caravan. Ouais. Moi, j'avais jamais entendu cet album-là, man.
C'est pas vrai, Carl. On l'avait écouté ensemble chez vous.
On l'avait-tu écouté ensemble chez
vous? Oui, je l'avais déjà amené chez vous.
Oh, man. C'est à tel point que je te dis, des fois, on écoute des albums, je m'en souvenais plus, mais.
Ouais, c'est pas grave.
Je pense, là, je l'ai comme réécouté de manière plus attentive plusieurs fois, et man, personnellement, j'ai adoré l'album, man.
Ben oui.
Quel bon album. T'sais, le son, justement, t'sais, la voix du chanteur qui est le bassiste, si je me souviens bien, sur plusieurs des pièces.
Il y a deux chanteurs sur l'album. C'est ça, hein? Ouais.
Bref, moi, le... Juste, je pense que c'est ça, c'est le Richard Sinclair, le bassiste. Moi, c'est la voix qui me touche le plus. Juste quand ça commence.
Basse, là.
Exact, mais aussi avec l'accent très fort, très présent, comme surtout dans la pièce, mettons, Golf Girl, qui commence l'album. Et j'ai super aimé aussi... le côté de, tu sais, comme justement les pièces, on reconnaît l'esthétique, mais ça va dans différentes histoires aussi. Et avec la pièce épique, naturellement, de prog d'une vingtaine de minutes à la fin. Nine Feet Ground, c'est super intéressant. Moi, c'est un album que c'est sûr que je vais réécouter. J'ai aimé justement le côté spatial et sonore, surtout un peu de la recherche. Au travers de l'album. Je serais intrigué, en fait, d'aller écouter peut-être même... J'ai pas écouté d'autres albums de Caravan, pour être franc, après. Pour dire que c'est un groupe que je connais moins un peu. Mais je serais intrigué d'aller entendre. Et j'ai beaucoup aimé aussi les arrangements avec les vents qu'il y avait sur différentes pièces.
Ouais.
Aussi, les instruments à vent qui sont vraiment intéressants. Je pense que ma pièce préférée, pour vrai, c'est Golf Girl. J'aime vraiment l'histoire de cette chanson-là.
Ouais.
C'est comme un peu déjanté. Fait que...
Ouais, c'est assez comique. C'est British en maudit, cette chanson-là.
Ah, vraiment. Puis l'accent qu'il prend aussi, puis avec le... Fait que, ouais, vraiment. Toi, mon fils, je sais que c'est un album que t'as écouté beaucoup.
Oh, énormément. Énormément. C'est un album que j'avais acheté, j'étais peut-être au cégep. J'étais allé au Archambault à l'époque, je l'avais vu dans la section, il y avait une section progressive dans ce temps-là. On est vieux, hein?
Ah oui, en effet, c'est plus ça.
Non, vraiment pas. Je me souviens de l'avoir vu, d'avoir entendu parler, lu sur Internet, comme quoi c'était un classique du genre Canterbury que je connaissais pas vraiment. Puis c'est un album qui m'a jamais vraiment quitté. Là. Je l'écoute encore régulièrement. Je l'ai écouté sûrement plusieurs, sans faire centaines de fois, cet album-là. Là. C'est un de mes classiques. Là. C'est certainement dans mon top 50 là, d'albums de tous les temps. Moi, je trouve que c'est un album parfait. Là. J'ai aucune critique. Aucune critique sur aucune des chansons. Je les aime toutes pour ce qu'elles sont individuellement. Moi, préféré, c'est la chanson-titre, In the Land of Grey and Pink. Et c'est drôle, j'explique souvent aux gens, quand j'essaie d'expliquer pourquoi j'aime le prog, tu sais, c'est des fois, c'est des touches additionnelles qui sont pas nécessaires, mais qui rendent l'expérience supérieure. Puis, tu sais, le drum dans cette chanson-là, je pense que c'est à chaque... Là, écoutez, je l'ai pas dans la tête parfaitement, là, puis je vais peut-être sonner comme un idiot total, mais comme à chaque 4 mesures, il y a un snare sur un contretemps comme brusque un peu. Puis, tu sais, c'est pas nécessaire. Il aurait pu juste garder son beat, tu sais, mais le fait qu'il fasse ça, ça rajoute, moi personnellement, je trouve énormément de couleur à la chanson. Puis ça, ce genre de petits trucs-là, c'est ce qui fait que le prog, c'est mon genre préféré. T'sais.
Cette sorte c'est de recherche petit... d'amener comme de tu sais, comme de se dire, au lieu de faire quelque chose de juste, ah, je vais faire un beat là, mais tu sais, d'aller dans la recherche profonde, de dire comment je pourrais amener ouais. cette art-là ailleurs. T'sais.
C'est ça. Comment je pourrais rendre ça plus fun ou plus touchant, plus violent. Je sais pas, tu sais, il y a plusieurs sentiments qu'on peut aller chercher, tu sais. Mais puis là, il n'y en a pas vraiment de sentiment autre que ça rend la chanson un peu mystérieuse, cette malaisante un peu aussi, parce qu'il y a justement cette espèce d'élément rythmique bizarre qui est là, qui autrement est pas, c'est une chanson qui est pas si comme expérimentale ou quoi que ce soit, mais c'est les petites additions comme ça qui font que ça rend la chose intéressante. Puis je vais te demander, toi, le clavier sur cet album-là.
Qu'est-ce très que belle recherche. Ben... c'est très, en fait, le son de l'album en général est très posé, très poli. Je trouve justement je veux dire gentil, mais dans le sens, comme tu parlais du Canterbury tantôt, on est moins dans le son d'en face, mettons, à la Emerson, tu sais.
Ah ouais, rien à voir, là.
Surtout le son de batterie, moi, qui m'a marqué pour ça, tu sais, justement, c'est super mélodique aussi. Je trouve que c'est un jeu de batterie très mélodique. Ouais. Le son de clavier est exceptionnel aussi, l'utilisation des
synthétiseurs. L'orgue, hein.
Exactement, puis des synthétiseurs qui étaient disponibles à l'époque. Oh non, c'est...
Ouais.
Puis aussi, le son d'orgue est très, je trouve, on n'était pas tant dans le gros son d'orgue à la distorsion, mettons, à la non. John Lord, là, t'sais.
Non.
Mais beaucoup plus dans le son léger avec, t'sais, les tirettes un peu fermées, là. J'ai vraiment aimé ça. Ben, naturellement, je pense que c'est ça qui donne un peu tout le son. Puis la voix aussi de Richard Sinclair marche, pour ça que je l'aime tant, je trouve qu'elle marche tellement bien avec l'ambiance et le côté un peu... je veux dire troubadour un peu des fois de la musique là, je peux dire ça de même.
Je peux voir ce que tu veux dire absolument.
Mais super aimé, c'est surtout aussi que de ce temps-ci je lis Le Seigneur des Anneaux.
OK.
Et la pochette est inspirée du Seigneur des Anneaux. Donc ça m'a quand même beaucoup touché et c'est une de mes pochettes préférées du rock progressif aussi.
Ah ouais, c'est beau hein.
Vraiment cette sorte de paysage en fait de village de Hobbit avec les montagnes en arrière, là, un peu. J'ai bien aimé.
Qu'est-ce que tu penses de l'épique?
C'est drôle parce que c'est une super belle pièce, mais personnellement, c'est pas la pièce qui m'a le plus marqué. Parce que
moi non plus, c'est drôle.
Je pourrais pas te chanter une section en ce moment, mais je pourrais te chanter comme des sections de Goth Girl puis sûrement Winter Wine, mais tu sais, je veux dire, vite de même, tu sais, mais c'est une super belle pièce, mais je pense. C'est étrange, je trouve, l'album passe très vite malgré le 43 minutes. Surtout à la fin, je pense, ça passe tellement vite que j'étais comme, ah, c'était une pièce épique, ça, cette affaire-là.
Ouais.
C'est comme, je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire.
Absolument, non, là, absolument. Moi, c'en est une que je me perds un peu dedans parfois. Là. Je l'aime beaucoup, cette chanson-là, mais comme tu dis, des fois, je me fais comme, hey, c'est fini, tu sais, wow, OK. Beaucoup, beaucoup de solos, d'orgue, beaucoup. Pour quelqu'un qui aime moins ça, c'est peut-être moins intéressant. Mais j'aime beaucoup qu'il y a des passages où le chant revient. Souvent, je trouve que c'est proche d'être brusque, proche d'être forcé, mais ça l'est pas. Ça, c'est des bonnes transitions, ça se fait bien. Ça prouve, je pense, le génie de ce band-là. Moi, j'avais écouté un autre album qui est For Girls Who Grow Plump in the Night. Mais ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, je m'en souviens pas tant que ça. Mais c'est de l'avoir aimé. Mais c'est le genre de band où tu écoutes un album puis tu l'aimes tellement que tu te dis j'ai peur d'être déçu après ça. T'sais. Moi, c'est mon cas. T'sais. Je me dis ah, j'ai peur d'écouter un autre album puis de pas être aussi en amour avec l'album. T'sais.
Ouais, non, je comprends. Je tiens à dire que c'est dans quand même l'année 1971 que l'album est sorti.
Mm-hmm.
Personnellement, cette année-là, 1971, je considère que c'est l'année de prog ultime. Là. Tellement de bons albums, man, qui ont sorti cette année-là, man.
C'est dur à dire. Je trouve ça difficile de faire ce choix-là, mais je comprends, ouais.
Ben, tu sais, il y a quel album? Il y a Middle qui est sorti cet album cette année-là. Mm. Aquaring the Taste, man. 666 d'Afro the Child.
Ouais.
Close to the Edge. Close to the Edge, je t'en souviens. Si
Middle, j'aurais dit 70 en plus, c'est drôle. Je sais pas, il faudrait que je vérifie, là, mais...
Je m'informe à l'instant même, mais si Close to the Edge est à la...
Close to the Edge, 71 ou 72, ouais.
Si Close to the Edge est à l'année 60... 1972, man.
Mm.
Malheureusement.
Ben, ces années-là, je te dirais, de 70 à 73, il y a tellement de classiques qui se sont faits ces années-là. Là.
Ah, tout à fait, man. Tout à fait. Mais bref, mm-hmm. En tout cas, tout ça pour dire que c'était un excellent album mais, et que c'est sûr que je vais le réécouter avec plaisir.
Moi, à chaque fois que Winter Wine part, j'ai des frissons. Là. C'en est une que je trouve qui se réécoute bien. Puis que justement, qui met en valeur le chant de Sinclair. Là, je suis acheté ça sur la discussion. Très, très belle chanson. Enfin, oui, pour moi, c'est un incontournable, cet album-là. Si vous ne l'avez jamais écouté, chers auditeurs, je pense que vous devez le faire. Sincèrement, c'était excellent. Ça, vous ne serez pas déçu. Le hype autour de l'album n'est pas surestimé, à mon avis. Là. C'est pas, ça mérite sa place.
Tout à fait, man. Vraiment, un bel album. Mm-hmm. Est-ce qu'on enchaîne avec notre top 5 maintenant?
Oui, notre top 5.
Moi, personnellement, ça a été plein de découvertes pour moi parce que les Canterbury, pour moi, c'était Soft Machine et quelques autres groupes que je connaissais, mais en fouillant, j'ai pas pu écouter tous les groupes en profondeur.
Ah, c'est loin
mais de... j'ai été avec, je pense, les classiques que je me disais, ah, ce nom-là, je l'ai souvent vu.
Mm-hmm. Moi aussi.
Donc, ça a amené plein de belles surprises que je sais que toi et moi, il y a sûrement un band qui va avoir dans notre. En fait, plus qu'un, mais nécessairement un. Toi, comment s'est passée la découverte du style?
Ouais, moi je connaissais. Dans le fond, en regardant sur Prog Archive, en regardant un peu sur des forums, en regardant ce qui se disait là-dessus, je me suis rendu compte que le seul album que je connaissais vraiment bien, c'était In the Pink of Green Pink. In the Pink, In the Land of Green Pink. C'était le seul album que je connaissais bien du genre. L'unique. Donc ça a été vraiment difficile pour moi de faire ce top 5-là. J'ai fait comme toi, je suis allé avec les classiques. J'ai bien sûr pas pu écouter tous les albums de tous les groupes. J'ai fait une écoute, je pense qu'elle est intéressante. Puis ce que j'ai fait aussi, je suis allé sur Spotify, puis il y a une playlist qui s'appelle The Sound of Canterbury.
Wow.
Puis je le mettais sur random, puis à chaque fois qu'il y avait une tune qui m'accrochait, ben je prenais en note le nom du groupe, puis j'allais revoir un peu ce qu'il avait fait après. C'est comme ça que j'ai découvert un groupe qu'on va sûrement parler plus tard. Ben, surtout deux groupes, en fait, là, qui sont dans mon top 5. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Mon critère, c'est ceux que ce que j'ai écouté m'a plus emballé. Que je voudrais plus découvrir. Parce que je dois vraiment l'admettre, je suis vraiment pas un expert de ce genre-là. C'est pas un top 5 très solide. On pourrait refaire ce top 5-là dans quelques années.
Mais en même temps, c'est ça qui est le fun.
Ça évoluerait sûrement. Là,
c'est ça qui est le fun, le côté naïf d'une première écoute, les deux ensemble. Ben, là, c'est vraiment un top 5 de choses. D'habitude, quelqu'un propose quelque chose, puis l'autre personne, tu sais, comme le connaît plus, l'autre le connaît moins. En tout cas, mais là, c'est deux choses qu'on connaît vraiment pas, les deux.
Mm-hmm.
J'aime ça, moi, ce côté naïf-là de la découverte.
Ouais, c'était le fun. Mais tu sais, c'est genre d'affaire, tu te dis, ah, j'aurais pu faire plus, mais tu sais, si tu commences à te dire ça, ça finit plus. Tu sais, en ce juillet 2021, voici notre top 5 de nos groupes préférés de la scène de Canterbury. Est-ce que tu veux commencer, Carl?
J'y vais avec... C'est un choix peut-être osé en partant. C'est pour ça que je l'ai mis cinquième, mais c'est un groupe que j'aime beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui pourraient dire que c'est vraiment pas un band de la scène Canterbury. Il est pas reconnu pour tel, mais c'est qu'il y a beaucoup de membres de la scène Canterbury dedans. J'aurais pu mettre le groupe Gong, et je l'ai pas mis. C'est un très bon groupe, d'ailleurs. Mais c'est le groupe 801. Je voulais le mettre parce que c'est un groupe tellement méconnu, mais c'est tellement bon. Je sais pas si t'es allé l'écouter, finalement.
Non, je dois t'admettre que non.
Je te le conseille, man. Il y a un côté groovy là-dedans, un côté fusion un peu plane, hein, man. T'sais, c'est comme, on s'en va vers la fin du prog, t'sais, c'est 76-77 que leur album Listen Now est sorti. C'est super bon. Les membres de la scène Canterbury qu'il y a là-dedans, on a Phil Manzera à la guitare. Il y a Brian Eno qui joue les claviers, qui n'est pas de la scène Canterbury, mais il joue là-dedans. Et il y a surtout le bassiste Bill McCormick qui jouait dans Matching Ball. Donc, on a quand même en tout cas, deux grands musiciens de deux groupes de Canterbury. Fait que c'est pour ça que je voulais le mettre juste pour vous ayez l'écouter. On sent justement l'influence des styles de band qu'on a nommé qu'on va sûrement parler plus tard, mais bref, de la scène Canterbury au travers du groupe. Et bref, c'est juste du bonbon pour les oreilles. Il y a Simon Phillips aussi à la batterie dans le band.
OK.
Qui est un excellent batteur encore, qui joue avec Hiromi aujourd'hui. Mais il devait être très jeune à l'époque. Alors, mon numéro 5, 801.
Ouais, je me souviens de tu m'avais suggéré cet album-là, ça m'a totalement échappé. Ça m'est sorti de la tête. Je vais essayer de l'écouter bientôt. C'est sûr que je suis curieux. Fait que pas grand chose à dire de ce côté-là pour moi. Est-ce que je devrais me lancer avec mon numéro 5?
Tout à fait, mon ami, man.
Ce n'est pas un épisode très long, je pense.
Ouais, mais tant mieux, ça va pouvoir pour les épisodes d'entrevue.
C'est vrai, c'est vrai. Mon numéro 5, c'est un groupe qui n'a fait que deux albums, et c'est le groupe Matching Mole.
Ah, yes, man.
J'aime beaucoup surtout le deuxième, donc le Little Red Record.
Wow, ouais, c'est plus connu aussi.
Ouais, je pense que oui. Puis non, c'est un album que j'aime beaucoup. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Il y a un peu tout là-dedans. C'est un album assez éclectique. Puis je pense que c'est le mot d'ordre du genre aussi. Là, ça. Il y a vraiment beaucoup de sonorités qui sont là. Pourquoi numéro 5? Parce que c'est pas un album que j'écouterais régulièrement. Je trouve pas que c'est quelque chose de très accessible. Puis ça, je trouve pas que ça se prête à tous les moments. C'est quelque chose que lui, je le connaissais de nom. J'avais déjà écouté quelques chansons avant de faire notre recherche. Mais c'est... Non, c'est bon. J'aime ça. Je suis pas un immense fan. Là. Je dirais pas que je suis un immense fan de ce groupe-là. J'aime bien. J'aime bien. Puis c'est surtout cet album-là que je vais peut-être me laisser retenter dans le futur. Parce que je suis un peu hostile, mais ça reste bon. Fait que mon numéro 5, c'est le groupe Matching Mole.
Mais man, c'est mon numéro 4, man.
Bon.
Mais moi, personnellement, j'adore ce groupe-là. Premièrement, pour le côté juste exploratoire. Puis aussi pour le jeu de mots du nom. C'est la plupart des membres là-dedans venaient du groupe Soft Machine. Donc, Machine Mole, Soft Machine, Matching Mole. C'est de là que le nom vient. Ça me fait toujours vraiment rire. Je trouve ça incroyable. Mais j'aime surtout comment le groupe, sûrement qu'on va reparler de Soft Machine plus tard, mais comme évoluer, puis l'influence comme de cette sorte de scène de jazz fusion-là qui même dans les années 60, naissait en même temps que Miles Davis puis des autres groupes, puis ce mélange-là, puis surtout dans l'album de Little Red Records, que la pochette est malade en passant, j'adore cette pochette-là. L'exploration, puis il y a des extraits live aussi que tu vois en concert qui ont des boss à la tête, c'est juste vraiment pété, t'sais. Puis, j'adore ça. La première tune de l'album, Little Red Record, moi, quand ça part, j'adore genre le côté, genre comme avec le piano, puis la petite voix, là. Et le nom. Starting in the middle of the day, we can drink our politics away. C'est du génie, ça, là. C'est du génie, moi, je trouve. Mais, non, moi aussi, je l'ai pas mis plus haut aussi pour un peu les mêmes raisons. Tu sais, je pense que c'est très expérimental. En fait, c'est un côté, c'est comme un Soft Machine, mais encore plus expérimental. Si ça se peut. Fait que, ça doit être dans les derniers moments avant que Robert Wyatt ait sa blessure, j'imagine. Je m'en souviens plus quand il y a eu sa blessure, tu sais, mais c'est quand même une triste histoire, ça. Mais, bref, mon numéro 4, Matching Mole.
Mon numéro 4, c'est un groupe qui est un peu dérivé de Caravan, puis de l'époque Pink of... The Land of Green and Pink, qui est le groupe Hatfield and the North.
OK, wow, OK.
Je n'ai écouté que leur premier album en partie, parce qu'il est dur à trouver même sur Internet, mais j'ai écouté au complet leur album de Rotters Club. Moi j'ai beaucoup aimé, surtout sur le premier album, il y a une chanson un peu plus longue qui s'appelle c'est comme une suite là, de plusieurs chansons, là. C'est le 3, 4, 5, genre 6e tune ensemble. En tout cas, c'est très très beau. Robert Wyatt chante là-dessus. Mais c'est un groupe un peu plus dans le côté planant.
Wow.
Et expérimental du Canterbury. Je suis pas ultra familier avec leur musique, mais ce que j'ai écouté, ça m'a beaucoup plu. Puis c'est ça, c'est un peu dans la lignée de Caravan. Mais c'est très, très éclectique. T'sais, c'est des chansons que tu vois, une chanson qui a presque pas de son dedans, puis après ça, la chanson d'après, ça va être un gros jam, puis la chanson d'après, ça va être une espèce de balade. T'sais, ça va un peu. Ça va bien les endroits. C'est vraiment un des groupes que j'aimerais me familiariser plus avec leur discographie. À court moyen terme, définitivement. J'aimerais ça réussir à trouver le premier en entièreté, que ce soit en CD ou en vinyle. Mais ça a l'air d'être un truc un peu obscur, là, donc ça sera pas facile. Fait que mon numéro 4, c'est le groupe Hatfield and the North.
Man, c'est drôle, j'ai pas été écouter ce band-là, fait que je vais certainement y aller. Puis en lisant sur le groupe, ça a l'air d'un sacré bon groupe, puis je suis juste toujours impressionné à quel point c'est beaucoup les mêmes musiciens qui reviennent
dans
tous les groupes qu'on dit depuis tantôt.
Non, c'est ça.
Genre, puis aussi, t'es comme l'importance de Robert Wyatt dans ce mouvement-là
mm-hmm.
est assez capoté, mais je vais certainement aller écouter. Il y aurait même Bill Bruford qui aurait joué dans le band, en tout cas. Intéressant. Moi, mon numéro 3, man, c'est le groupe Caravan. Littéralement. Mm-hmm. Je dois dire que, comme je disais tantôt, j'ai pas écouté tous les albums non plus du groupe, surtout Land of Pink and Green, puis quelques pièces de quelques autres albums. Donc, peut-être qu'un jour, il va se retrouver plus haut. Pour l'instant, il est là parce que, premièrement, on a encensé l'album tantôt, je pense, avec raison. C'est un groupe super intéressant. Je pense qu'il s'est démarqué aussi de ce mouvement-là. T'es. Vu que souvent, c'est les mêmes gens, ça peut être facile que ça devienne pas redondant, mais que ça devienne un peu la même chose. Mais je trouve qu'ils ont réussi à sortir de ce moule-là puis d'un peu faire leur propre vision de la scène Canterbury. Naturellement, le Land of Green and Pink est une pierre angulaire du rock progressif en général. Donc, pour cette raison et pour toutes les autres qu'on a nommées tantôt, je vais dire le groupe Caravan.
Mm-hmm. Excellent choix. Moi, je pense que c'est mérité, là, le hype autour de ce groupe-là. Là. C'est,
tout à fait.
Puis c'est un des moins expérimental aussi.
Ouais, il y a vraiment un côté plus accessible dans le groupe.
C'est le moins Canterbury des Canterbury.
Je comprends ce que tu veux dire. Il y a un côté quand même assez, peut-être, pop, ça reste du prog aussi, mais t'es dans le sens moins dans t'es des pièces juste avec des sons ou juste des voix t'es comme plus exploratoires.
Mm-hmm.
Comme t'es plus côté psychédélique. Je trouve que le groupe, c'est pas négatif, qu'est-ce que je veux dire, mais il est plus liché un peu. On voit que c'est plus produit. Donc, non, moi aussi, je suis d'accord avec ton propos.
Alors, mon numéro 3, on s'en va dans un groupe que tu as nommé tantôt. C'est le groupe Gong.
Woo!
C'est un groupe officiellement français, apparemment, d'origine de France apparemment, mais qui fait partie de la scène Canterbury.
Ouais, c'est bizarre.
Pourquoi? Ouais, c'est parce que je sais pas. Je pense que c'était des gars qui venaient de là, puis qui ont formé le band en France, mais qui. J'ai pas lu sur le groupe tant que ça. Moi, ce que j'avais entendu beaucoup parler de Gong, c'était la trilogie du Gnome Invisible, hein, la Radio Gnome Invisible Trilogy.
Ouais.
C'est vraiment. Très, très bon. C'est un des trucs les plus bizarres et les plus créatifs que j'ai entendu de ma vie. C'est vraiment pas quelque chose que je suis familier avec encore à ce jour. Mais c'est définitivement quelque chose que j'aimerais m'investir plus. Là. J'ai tellement aimé la trilogie. C'est capoté. Là. C'est vraiment fou. Si vous avez jamais écouté ça, là, c'est vraiment des trucs les plus originales. Là. Il y a peu de chances que vous ayez entendu quelque chose de ce genre-là. Puis c'est le fun quand ça arrive, ça. J'ai écouté un band, tu sais, puis t'es là, wow. T'sais, j'ai jamais entendu quelque chose qui sonne comme ça. C'est vraiment bizarroïde. Mais de la meilleure façon que ce soit, ce que je veux dire, c'est que c'est créatif, c'est original, c'est recherché. C'est des chansons qui sont souvent courtes. Donc ça passe vraiment du coq à l'âne régulièrement. Si vous aimez ce genre-là, puis les albums concept, ça vaut vraiment le détour, là. Sincèrement. Là. Mais si vous êtes moins pour le côté éclectique du Canterbury, c'est plus dans la mouvance jazz. C'est définitivement pas le même vibe. De ce que je comprends, ils ont fait des trucs plus jazz plus tard dans leur carrière. Moi, je ne connais pas les époques plus lointaines. Mais ce que j'ai entendu, pour le présent épisode. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Puis c'est définitivement quelque chose que j'aimerais investir plus de temps dedans. Là.
Ben, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai l'impression que c'est un peu un groupe qui est comme, je veux dire, un culte autour de ce mm-hmm. groupe-là aussi. Mm-hmm. Dans, un peu à la... Comment ça s'appelle le groupe français?
Magma.
Magma, exactement. Mais moi, j'avais beaucoup écouté l'album Gazeuse aussi, de eux, qui est comme un peu leur album légendaire. Je savais qu'il y a le côté plus jazz. J'ai super aimé ça. Je pense qu'il y a un côté quand même très psychédélique à ce band-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le band le plus psychédélique dans le sens, c'est des sons un peu plus... un peu plus ouais. Acide, avec un côté un peu plus... c'est pas négatif, mais jam band un peu. Là, c'est moins dans le raffinement, mettons, à la caravane. C'est un peu plus dans fast, un peu. Je trouve, en tout cas.
Ouais. Ben moi, j'ai pas écouté, c'était l'époque dont tu parles, là. Je regarde le line-up, c'est carrément c'est un autre line-up complètement. Là. Il n'y a presque plus de musiciens du band original. Là,
c'est drôle, dans ma tête, c'était ça pour moi, Gang, parce que j'écoutais comme les premiers, mais surtout pour moi, dans Gang, tout le monde me souvent parlé de l'album Gazeuse. Mais là, ça s'appelait, je pense même, Pierre Moerlens Gang. En tout cas, c'est ça qui est écrit sur.
Ça, je regarde Wikipédia aussi. Moi, celui que j'ai écouté, c'est le David Allens.
C'est drôle. Des gens de band justement qui ont eu tellement d'époques, tellement d'histoires puis de leaders. C'est intéressant pareil. Puis on voit comme la sorte d'esthétique, ça a l'air quand même d'être éclectique sur scène. D'ailleurs, juste leurs pochettes d'albums sont tellement colorées. Puis c'est tout le temps un peu une affaire bien bizarre. Là. En tout cas.
Ça a l'air d'être quasiment d'un collectif. Là, rendu exact. Jeu, là. C'est comme un véhicule pour de la musique, whatever. Là, c'est comme...
J'imagine aussi que les gens devaient composer ou travailler ensemble, puis comme jouer, puis ils devaient ressortir quelque chose. En tout cas, moi, c'est le même qu'en écoutant la musique, ça je l'entends. T'sais. Mais non. Moi, il n'a pas fait mon top 5, justement, parce que... C'est peut-être mon côté plus jazz, je sais pas. Des fois, j'aimais ça vraiment le côté comme, on va dire, cru. Puis, mais je sais pas, il y a des bandes qui m'ont juste plus touché un peu, fait que, personnellement. Mm-hmm. Mais bon choix avec Gang. ça m'amène à mon numéro 2, man. Qui est Soft Machine. Qui est, je pense, c'est drôle parce que si on aurait eu à faire un top 5 des albums de Canterbury, mon premier ça aurait été un album de Soft Machine, soit l'album Bundles, qui était comme dans une autre partie de Soft Machine quand Robert Wyatt a dû quitter à cause de son accident, comme je disais tantôt, qui est vraiment triste, qui a perdu la fonction de ses jambes, donc c'est très dur quand on est batteur naturellement. Là-dessus il y avait Alan Oldsworth aussi, puis c'est un peu ce groupe-là qui a mis de l'avant-plan le guitariste Alan Oldsworth, que je parle régulièrement et que j'aime beaucoup, non, c'est surtout aussi, je pense, pour son côté, c'est tellement important dans le mouvement, puis comme je disais tantôt aussi, pour être dans les premiers groupes aussi qu'on pourrait catégoriser de jazz fusion, on va dire de jazz fusion à l'anglaise, à la rock progressif un peu. Mais tu sais, c'était nouveau à l'époque, je pense que c'était des gens qui mélangeaient toutes ces influences-là. Puis, je pense que c'est dans les groupes fondateurs du mouvement rock progressif, certainement. Non, quoi dire de plus, à part que c'est ça. Personnellement, j'aime vraiment ça, les albums autour de l'album Bundle du milieu des années 70, soit leur période beaucoup plus jazz, beaucoup plus poly un peu. J'aime les premiers albums qui sont parfois plus psychédéliques. Mais non, moi, c'est le côté justement très... jazz du groupe que j'aime beaucoup. Alors, mon numéro 2, Soft Machine.
Soft Machine, moi, j'ai écouté surtout leurs 4 premiers. Je me suis jamais rendu plus loin que ça. Et, en toute franchise, pas un grand fan.
Ah ouais?
Bof, je sais pas, je comprends pas trop l'hype autour de ce band-là en toute franchise. J'ai jamais vraiment trippé. Puis j'ai essayé plusieurs fois dans ma vie là, d'écouter ça, puis... je connais pas vraiment. Je pense que c'est le genre de groupe qu'il fallait voir live, puis les voir expérimenter, puis triper, puis pousser leur son. Mais en disque, ça me parle pas tant que ça, personnellement. Donc, moi, il est pas dans mon top 5 Soft Machine. C'est pas,
Ok, intéressant. T'sais, malgré. C'est correct, t'es rendu, c'est tout. Mais c'est. Intéressant quand même. Mais je te conseille vraiment d'aller écouter les albums quand Robert Wyatt est plus là, c'est triste à dire, mais c'est vraiment bon, mais l'album Bundles, man, c'est juste fou, man.
Ben, c'est plate à dire, mais c'est... Je sais que là, je veux sûrement... C'est incendie ce que je veux dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui tripe sur Robert Wyatt, mais tu sais, comme...
Ouais.
T'sais, j'avais écouté son album solo, Rock Bottom, j'ai trouvé ça emmerdant. Je pense que je suis pas un grand fan de son son. C'est plate à dire, là. Peut-être que ça va grandir en moi, là. Peut-être que je vais réussir encore. J'ai essayé plusieurs fois, là, Rock Bottom. Je le finis jamais, cet album-là. Ni le premier Soft Machine, j'ai jamais réussi à le finir non plus. Ça me parle pas bien, bien.
Ça peut peut-être des fois être un peu aride, dans le sens que c'est intellectuel un peu, puis surtout, peut-être des fois, complexe pour être complexe, tu sais.
Ben, tu sais, il y en a des affaires complexes pour être complexes que j'aime, tu sais, mais ça, je sais pas pourquoi, ça connecte pas vraiment avec moi. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça a jamais vraiment... On dirait que c'est pas le genre d'expérimentation qui m'intéresse. Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, les affaires expérimentales de John Zorn que j'adore, ou les groupes de musique noise japonais que j'adore, tu sais.
Ouais.
Une sorte d'affaires qui sont ultra expérimentales, puis je trouve ça vraiment créatif puis cool, mais Soft Machine, je trouve ça un peu emmerdant comme improvisation, puis expérimentation, puis je pense que ça a à voir peut-être avec justement l'écriture de Wyatt, que c'est peut-être moins mon genre. Puis c'est drôle parce que j'ai un souvenir de Daniel Sonwander qui disait là, Rock Bottom, c'est malade, puis je l'ai jamais cru qu'il aimait vraiment cet album-là, parce que je sais qu'il y avait un prof ou je sais pas quoi qui avait dit que c'était vraiment essentiel, puis
peut-être qu'il voulait juste pour être cool un peu, ou...
Je sais pas, mais quand je l'ai écouté, c'est pas tant nice. C'est plus, tu sais, sur Prog Archive, c'est comme dans les meilleurs du Canterbury Scene, cet album-là, puis je suis comme, ah ouais, c'est vraiment surprenant. Mais peut-être quelque chose que je comprends pas. Éclairez-moi, chers auditeurs.
Ouais.
Mais c'est peut-être moins pour moi, c'est plate. Mais
faut dire que c'est ça, Robert Wyatt a quitté le groupe après le quatrième album, justement, puis... c'est à partir de là, je pense, j'ai l'impression que ça tourne beaucoup plus sur le jazz un peu, t'sais.
Mais c'est jazzé quand même, les...
Les premiers, oui, ben il y a du saxophone, ouais. Des fois, il y a du vibraphone, il y a toutes sortes d'affaires, t'sais, mais vraiment.
Enfin, quelque chose qui me parle à moi, c'est mon numéro 2, c'est le groupe National Health.
Wow, man! J'étais sûr qu'elle allait arriver premier, moi.
J'ai hésité longtemps entre mon numéro 1 et 2.
J'ai hâte de voir le numéro 1, on dirait que je suis curieux en ce moment-là.
Mais National Health, ça, c'est ma grosse découverte là, de cette recherche-là. Ça, c'en est un que j'ai vraiment découvert sur la playlist. Il y avait une chanson du premier album, l'album intitulé National Health, qui m'avait vraiment accroché. J'étais allé écouter l'album, puis vraiment, ça m'avait épaté, vraiment. Puis j'avais regardé un peu ce que le monde disait sur Internet, puis le monde disait que le deuxième était encore meilleur, tu sais. J'étais « Wow, OK, tu sais, ça doit vraiment être incroyable. » Puis oui, ça l'est. C'est vraiment incroyable. Donc, le deuxième album, Of Cues and Cures, je pense que ça va devenir un classique pour moi. Là. Je ne l'ai pas écouté encore assez pour dire ça. Là. C'est quand même incroyable, là, cet album-là. C'est la composition, les sons, la recherche. J'ai l'impression que c'est un peu un super groupe aussi, là, National Health.
Je pense que oui. Surtout si tu arrives vers la fin du mouvement prog aussi. Là.
Sur le premier album, il y a une femme qui chante aussi des fois. Moi, je trouve ça le fun d'avoir un chanteur et une chanteuse, tu sais, comme qui se partagent un peu la scénette. Puis beaucoup, beaucoup de musiciens. L'écriture en a sûrement bénéficié. Très, très cool. Vraiment, là, c'est. Surtout le deuxième. Je sais pas si je suggère au monde de faire comme moi puis de faire un puis deux. Mais je pense que les deux sont. C'est vraiment des excellents albums. Puis, tu sais, Of Cues and Cures, c'est extrêmement expérimental par moment. Là. La meilleure façon que je peux décrire ça, c'est que c'est du prog jazz expérimental. Là. C'est des fois, c'est super mélodique, des fois, c'est pas du tout. Puis, ça va bien des endroits, cet album-là, vraiment. Là. C'est surprenant parfois, là. Mais ça vaut tellement le détour. C'est complexe, c'est unique. Je regarde sur Wikipédia, là, il y a comme 5 genres associés à ça. Le jazz fusion, le progressive rock, l'avant-garde jazz, le psychédélique rock et le art rock. C'est comme ça, pas de bon sens. Là. C'est quoi cette chose-là? Ben, cette chose-là, c'est un truc vraiment bizarre, unique, très, très unique, puis vraiment très, très bon. J'ai écouté ça en cuisine tantôt, je l'ai réécouté en cuisine tantôt, puis j'étais encore... wow, c'est comment tu peux écrire des choses comme ça? C'est c'est vraiment fou. Il y a des chansons comme les Binoculars, Squire for Maud, la première chanson aussi que j'aime beaucoup. C'est vraiment... Vraiment, je pense que ça va être un futur classique pour moi. Là. Grosse découverte. Ouais. Je le recommande vivement là, aux auditeurs. Ouais.
Je te comprends. Personnellement, c'est mon numéro 1. Okay. National Heat, pour toutes les raisons que tu as dit, puis surtout parce que je trouve que c'est le band le plus musicalement achevé de ce mouvement-là. Mm. Mm-hmm. Je trouve aussi que c'est tellement tight, puis tu sais, c'est vraiment sophistiqué au point de vue des arrangements, puis des lignes, puis justement, on parlait des sons de clavier tantôt. Là-dedans, man, il y a des sacrés bons solos. La présence de la basse aussi, le bassiste, waouh, tu sais. Super performance. J'ai pas écouté l'album DS Alcoda, man.
Moi non plus.
J'ai pas écouté cet album-là des années 80. Honte à moi, et je vais aller l'écouter. Moi, j'ai vraiment aimé dans le premier album la voix, man.
Mm-hmm.
La présence de la voix était tellement originale parce que c'était vraiment vu comme un instrument. On comprenait pas tant les paroles ou des affaires comme ça, s'il y en avait, mais c'était vraiment comme... Ça faisait partie de la musique, puis c'était pas ça qui était à l'avant-plan, ce qui est très rare, puis ce qui est très intéressant, je trouve.
Mm-hmm.
Donc, en tout cas, c'est dur de rajouter des affaires parce que, man, t'as tellement dit exactement ce que je pense du groupe. Moi, ça a été juste un coup de foudre énorme, man. Puis, j'ai écouté, en fait, c'est les albums que j'ai écouté le plus de fois dans ce que j'ai écouté en lien avec le Canterbury.
Mm-hmm. C'est surprenant qu'un album comme ça ait été produit aussi tard aussi, là. 78, là, quand même. C'est surprenant que des sons encore comme ça, là. Mais comme tu dis, tu l'as tellement bien dit, c'est abouti.
Exact. Et puis, c'est dans les derniers bands du mouvement aussi, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose... Non, c'est ça. C'est comme on dirait, comme on voit l'évolution. Peut-être la côté Canterbury, au début, c'était plus psychédélique, expérimental, que ça va vers quelque chose de plus en plus jazz. Puis la finale étant National Health. Fait que, ouais, moi c'était mon numéro 1 aussi. Fait que, toi c'était le numéro 2.
Ouais, mais mon numéro 1 c'est Caravan.
Waouh, mais en fait, j'avoue que j'y ai pas passé. J'avoue que c'est une surprise. J'y ai pas passé, mais ça me surprend pas en effet.
Ouais, ben c'est purement à cause d'un billet, là. Encore une fois, peut-être que si on ferait cet exercice-là dans 5 ans, ça serait différent. Mais j'ai tellement un billet immense à cause de l'album In the Land of Green Pink, qui pour moi, comme je disais, un de mes albums préférés de tous les temps. Donc, c'est sûr que j'ai un billet. Puis c'est un album, c'est un groupe que je veux revisiter, puis que je veux vraiment le faire.
Mm.
Et j'aimerais voir le spectacle, puis ils sont encore actifs apparemment. Ouais. Donc, qui sait? Que j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit. J'ai pas écouté leur album plus ancien, apparemment ils sont bons aussi. Là. Le deuxième, qui est très bien coté sur Prog Archive aussi. Mm. Mais la majorité de leur album le sont. J'aimerais bien... me laisser tenter peut-être dans un futur proche pour... Puis c'est intéressant parce que c'est un band qui a continué d'exister presque sans interruption depuis les années 70.
Il y a juste eu un roulement de personnel assez intense. Là. Fait que...
Ouais, ben souvent, on dirait que ce genre-là, c'est arrivé régulièrement. Là.
Ouais, ben surtout comme on disait tantôt que c'était vraiment une communauté puis les gens échangeaient beaucoup. Là, fait que... C'est une bonne chose.
Absolument, absolument. Fait que c'est ça, moi, c'est mon numéro 1. C'est Caravan. Je ne m'en lasse pas.
Tant mieux, man, tant mieux. Je comprends. Moi aussi, c'est un band que moi, il faut que je le découvre plus aussi. Donc, on va le faire ensemble. En fait.
Ben oui. Mm-hmm. Très, très, très intéressant à faire ça. Pour le prochain épisode, Carl, on peut pas vraiment l'annoncer encore parce que ça reste à... déterminé, mais ça s'enligne pour qu'on ait une nouvelle entrevue.
Oui, exactement.
Et vu que c'est pas encore 100% confirmé, je n'en dirai probablement pas plus.
Moi, j'ai quelque chose à te proposer comme album.
Au cas où on peut pas...
Exactement.
OK, oui, OK.
J'ai deux choses. Tu me diras lequel tu préfères. J'ai un album de Magma.
Ouais, ouais.
L'album... Je sais jamais comment dire. Oudou Voudou. En tout cas, Oudou Voudou.
Ok, comme... pas le classique, là.
Non, exact. Moi, c'est celui-là qui a la toune Zombie. J'aime vraiment la toune Zombie. Donc,
ok.
J'y connais zéro de cet album-là, à part la toune Zombie. Ok. Mais ça, ou un album de musique expérimentale du guitariste Fred Firth qui s'appelle Gravity.
Est-ce que c'est plus moderne, Gravity?
Ça date de 1980, man.
Ben, je pense que ce serait intéressant de faire ça, parce que ton Canterbury, c'est assez ancien. Ben, malgré que 80, il y avait du Canterbury encore dans ce temps-là.
Mais c'est autre chose, man. Mais je pense que c'est surtout... c'est un album que j'avais déjà flirté un peu, que des gens ont fait entendre, puis ça m'a toujours fait capoter. Puis je me suis toujours dit que ça serait le fun. J'aimerais ça te le faire découvrir, puis qu'on l'écoute ensemble.
Man. OK. Je vais aller voir ça, là. L'album des années 80.
C'est... Gravity. Gravity, okay. De Fred Frith. Frith. F-R-I-T-H. Okay, okay.
Ouais.
J'aimerais ça qu'on en parle, man. Je serais intrigué, man.
OK, je connais rien de cet album-là. Je suis intéressé.
J'adore ça, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire comme top 5, man? Qu'est-ce que c'est cool?
Ah, boy. Laisse-moi regarder à mes CD. Là, on est silence en onde, là. C'est pas drôle, ça. Là.
Ah, je sais, man. C'est à cause que... Faut dire, d'habitude, on s'en parle avant, mais là, on était comme tellement enthousiasmés parce que ça fait longtemps qu'on en a fait un podcast que là, on voulait tout de suite partir.
c'est absolument vrai.
Ah là là.
Qu'est-ce que tu dirais de... top 5 préférés chansons de... Allez, j'ai ma phrase, ça fait aucun sens. Top 5 de tes chansons préférées de... Emerson, Lake & Palmer.
Man, c'est bon ça. J'adore ça.
C'est pas la chose la plus originale, mais il fallait qu'on le fasse un jour. Fait que...
Ben, exactement.
On a parlé d'Emerson, Lake & Palmer. On a parlé des musiciens. Pense... On a parlé des musiciens beaucoup dans nos top 5 de musiciens, mais on n'a pas parlé d'un de leurs albums, il me semble.
Je pense qu'on avait-tu parlé de leur album? En tout cas...
Mais gars, je vais aller voir vite.
Gardons ça en surprise. Au pire, on va faire un top 5 surprise. On va s'en reparler le prochain épisode.
Ouais.
Mais on va vous parler de l'album Gravity de Fred Frith.
Alors... On a fait un review du premier album.
C'est vrai, man.
Mais on n'a pas fait le top 5 sur ce groupe-là. Fait que faisons cela. En espérant qu'on va faire l'entrevue, ça reste à confirmer, mais ça regarde bien. On va vous venir là-dessus. On va vous. Peut-être avoir une surprise. Épisode 36, ça va être surprenant. Soit une critique de Fred Frith ou bien une entrevue avec un musicien québécois.
Exactement, de la relève.
Très intéressant.
On ne vous en dit pas plus.
On vous en dit pas plus. Car est-ce que tu as écouté son album?
Non, parce que pas je encore. Me suis concentré sur le Canterbury, mais j'attendais ben, voir raison, après ça allait se faire. Fait que, ouais. Mais oui, tout à fait.
Je vais lui écrire après l'épisode. Aussi, c'est scheduler ça. Écoutez, avant d'avoir conclu tout ça, bien sûr, on vous remercie, chers auditeurs, d'être au rendez-vous à chaque deux semaines, quand c'est à chaque deux semaines. Désolé pour les délais, l'été, vous savez comment c'est, les congés, les tournées pour la moitié des membres de ce podcast. Donc, on va essayer de reprendre un peu de notre routine. Pour le reste de l'été, mais merci de votre support. N'oubliez pas de partager, bien sûr, l'épisode avec vos proches là, qui sont fans de musique. Comme vous pouvez voir, on parle pas juste de prog, on parle de jazz, on parle d'expérimental. On va parler d'un autre genre, potentiellement dans le prochain épisode, qui n'est pas vraiment ce qu'on est plus habitué de faire. Tout pour dire que, aussi, c'est ça, je pense qu'on ouvre nos horizons aussi. Oui, on est les gars du prog, mais on est d'abord et avant tout les gars de la musique. T'sais, on aime tellement le genre, Carl et moi.
Ben, je pense que c'est le mot du prog aussi, c'est la musique puis le mélange. Ouais,
absolument. Puis, si vous voulez nous aider, il y a deux façons de le faire. La première, bien sûr, c'est de partager. La deuxième, si vous voulez nous supporter un peu plus que ça, financièrement peut-être, il y a notre Patreon, donc à patreon.com/lesgarsduprog. Si vous voulez nous écrire, nous poser une question, nous suggérer un top 5 peut-être, ou un album que vous aimeriez qu'on fasse une critique, je vous prie de nous écrire à lesgarsduprog@commercial.gmail.com ou bien, si vous êtes sur YouTube, nous laisser un commentaire sous la vidéo. C'est la meilleure façon de nous rejoindre. Là, les spectacles recommencent, donc on va peut-être faire aussi des critiques de spectacles. Dans les mois à venir, donc ça j'ai bien hâte de pouvoir recommencer à faire ça. On en faisait un peu au début des gars du prog. Mm-hmm. Et là suite à ce que certains décrivent d'une pandémie mondiale, nous voici potentiellement de retour vers des spectacles, donc
tout à fait, c'est...
ouais, donc Carl, je te laisse le mot de la fin comme à l'habitude.
Alors tout le monde, vive le prog.